Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Étienne Tricot.
Bonjour.
Je reçois aujourd'hui pour les 20 ans de la REP, entre autres, Étienne Tricot, président de la REP. Étienne est ingénieur, architecte, urbaniste. Je vous avoue qu'on se connaît depuis un certain temps, parce qu'on a fait ensemble le master de l'École des Ponts. Et je suis vraiment très contente qu'Étienne vienne parler aujourd'hui dans le micro, à la fois pour nous exposer son rapide CV, mais surtout l'évolution, la création de la REP, qu'est-ce que ça veut dire l'évolution de cette filiale de la SNCF depuis maintenant 20 ans. Et puis on va parler après de tous vos métiers. Vous pouvez me donner un petit peu votre CV, Étienne, ou tu peux plutôt, parce
oui.
que je ne vais pas avoir la possibilité de vous voir.
Très bien, merci Myriam. En deux mots, après un bref passage en bureau d'études, parce que, voilà, ayant été formé à l'ingénierie, j'avais envie d'exercer dans ce domaine. D'ailleurs, ce passage a été très, 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 très profitable pour moi, puisque c'était avec Peter Rice que je travaillais à Londres. Disparu trop tôt, un très grand monsieur, un de ces grands ingénieurs de la fin du XXe siècle qui a participé à, notamment, à accompagner tout ce mouvement high-tech en architecture avec une expression structurelle très forte et qui m'a beaucoup appris sur la vérité en architecture, sur la manière de travailler l'espace avec justesse, avec parcimonie et
légèreté.
Avec vérité et avec légèreté, exactement. Et à partir de là, j'ai voulu exercer mon autre métier, si je puis dire, d'architecte. Et en fait, j'ai rejoint très tôt Jean-Marie Dutilleul, qui venait de rentrer à la SNCF. Et la SNCF, qui avait un patrimoine de gare un peu en friche, il faut le dire, il s'était pas passé beaucoup de choses depuis un certain nombre d'années, et où, dans une période où, avec le TGV, la société française redécouvrait le train, et en tirant un peu la pelote, on s'est dit qu'elle n'allait pas tarder à redécouvrir la gare. Et donc cette
au-delà
manière
au-delà des romans de gare et du côté
voilà
un
au-delà
petit
du côté très voilà, romantique justement
tout
de, la
à
gare,
fait, de la gare hein,
comme pôle urbain d'importance, comme espace vital de la ville d'aujourd'hui et de ses mobilités. Et donc on a été depuis comme j'allais dire à la fois témoin et acteur de ce grand mouvement, et ça nous a conduit toujours avec mon ami Jean-Marie en 97 à monter une société qui s'appelle AREP, qui a un statut un peu particulier puisque c'est une filiale de groupe SNCF qui réunit des architectes, des urbanistes, des designers, des ingénieurs, des programmistes, des conducteurs d'opérations, toutes ces métiers qui concourent à l'aménagement de l'espace. Et on en est arrivé là avec la vision de la complexité de l'objet gare qui nécessite aujourd'hui d'avoir un regard de professionnel croisé pour proposer des solutions fonctionnelles, spatiales, satisfaisantes. Et du coup, l'organe créant la fonction et la fonction créant l'organe, AREP est devenu cette sorte d'objet hybride qui travaille non seulement sur la gare, mais sur la ville en général.
Mais justement, on va en parler, et vous êtes reconnu déjà grandement à l'international sur ce genre de métiers que sont les métiers de l'urbanisme, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Je vais faire un peu de provocation. Vous savez que vous êtes un petit peu attaqué sur le fait d'avoir modifié l'espace de la gare en faisant un immense centre commercial. J'ai cru comprendre que certains passagers se sentaient un peu déroutés ou avaient l'impression que la gare n'était plus la gare, c'est-à-dire que justement, avait perdu son romantisme au profit du mercantilisme. Qu'en penses-tu ?
Alors, je pense que le commerce n'est qu'un des éléments qui constituent ce qui est devenu la gare. Effectivement, le commerce, c'est la partie peut-être émergée de l'iceberg la plus forte. Quand on regarde d'ailleurs le nombre de mètres carrés, ça n'a rien à voir avec les grands centres commerciaux périurbains qu'on peut connaître. La gare Saint-Lazare, on s'est dit, tiens, c'est finalement presque un centre commercial qu'on crée dans la ville, c'est 10 000 mètres carrés de commerce.
Voilà. Oui, c'est pas énorme.
C'est rien par rapport à... En revanche, c'est à la fois en termes d'usage et en termes de symbolique extrêmement fort. C'est-à-dire en créant finalement cette gare qui renoue avec une autre typologie d'espace public parisien qui est le passage parisien, finalement, où on trouve, vous savez, ces lieux qui sont extraordinaires dans Paris, qui sont ces lieux de commerce, bien sûr, mais aussi de restauration, de sociabilité, finalement. Parmi ces lieux, ces espaces publics de la ville où se crée le contact à l'autre, où se crée la relation, eh bien, la gare, finalement, en se gréant d'un certain nombre de services, de commerce, réaffirme qu'elle est non seulement un lieu de passage fonctionnel,
qu'elle est un lieu public avec une vraie identité.
Exactement, qu'elle est un lieu public de la ville, qu'elle est un maillon clé de la chaîne des espaces publics de la ville, et donc de ces lieux qui, finalement, par leur intensité de passage, de trafic, de rencontres, génèrent l'énergie de la ville.
Donc la REP, pardon, juste un point, mais donc c'est parce qu'il y avait mobilité et parce qu'il y avait cette redécouverte de ces centres que la REP a souhaité travailler sur des projets urbains beaucoup plus grands. C'est un petit peu ça la pelote.
Écoute, je ne sais pas où est la poule et où est l'œuf, mais effectivement, c'est un mouvement simultané de travail sur les gares, sur les quartiers de gare et sur la ville de manière plus générale. Parce que en même temps qu'on a assisté à cette mutation des gares ces dernières décennies, on a assisté à une autre mutation qui est peut-être moins médiatique, mais qui est réellement à l'œuvre, non seulement en France, mais dans tous les pays à travers le monde, qui est celle des quartiers de gare. Les quartiers de gare, tu parlais des romans louches et des romans policiers tout à l'heure. Voilà, les quartiers de gare, pour beaucoup de gens, c'était ça, le lieu plus sordide de la ville,
terrible,
un délaissé. Aujourd'hui, il n'y a pas un maire à travers le monde qui ne fait pas de son quartier de gare
une
un
vitrine,
point essentiel
voilà.
de sa stratégie de reconquête urbaine. Et donc, on se rend compte, on a compris d'abord que c'était des lieux qui pouvaient participer de la ville durable, pour dire court, parce que accessible par de la mobilité bas carbone, et donc si
et on en mélangeant, en ajoutant des fonctionnalités de bureaux, ce qui était absolument pas le cas.
Et si par ailleurs on y ajoute effectivement toutes les fonctionnalités qui font la ville d'aujourd'hui, que ce soit de l'habitat, du tertiaire, du culturel, de l'informatif, de la formation et du commerce, eh bien on s'aperçoit qu'on organise une ville qui d'abord est orientée une fois de plus vers la mobilité plutôt soutenable, et qui en plus est un démultiplicateur d'énergie urbaine, puisque de la rencontre naissent un certain nombre d'activités intenses, denses, autour de la gare.
Mais est-ce qu'il y a des lieux de respiration dans ces densités ?
Alors,
parce que c'est ce à quoi les citoyens aspirent.
Hein. Oui, alors la question que tu poses, c'est celle de l'espace public directement, qui aujourd'hui, je pense, est en train de muter considérablement.
A été malmené quand même pendant une dizaine, voire une quinzaine d'années, puisqu'on
oui, plus même,
on demandait,
je pense.
Oui, peut-être.
Je pense plus, puisqu'il était, comment dire, il était censé préformater un certain comportement social, une certaine manière de rencontrer les autres, une certaine manière de vivre en société. Et je pense que les mouvements actuels de la vie en société, de la vie urbaine, notamment sous l'influence du numérique, mais pas que, fait que les modes de rencontre sont extrêmement différents de ce qu'on a connu auparavant. Ce qui fait d'ailleurs muter non seulement les espaces publics, mais les espaces de travail, les espaces de la culture, les espaces de l'hôtellerie.
C'est pour ça qu'il y a des espaces de coworking maintenant.
Exactement.
Dans les gares.
Et on voit que ça nous conduit, nous, architectes et urbanistes, c'est cette mutation de société et de pratique de la ville, à revisiter l'ensemble de ces programmes ou de ces espaces pour les adapter à ce que les gens attendent aujourd'hui, qui sont des espaces beaucoup plus flexibles, beaucoup plus mobiles, qui sont des sortes d'espaces capables d'accueillir un certain nombre d'activités.
Juste un petit point aussi, Étienne. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de travailler à l'international, donc sur des musées, sur des quartiers d'affaires, est-ce à dire qu'effectivement, le fait d'avoir créé la REP il y a une vingtaine d'années, donc quelque chose de... une filiale, mais en même temps une identité propre à la SNCF, vous donne l'envie d'avoir des ailes et donc de complètement transgresser, la maison mère.
Alors, je ne sais pas si on transgresse, si on tire, si
ce
on
lien.
Est à côté. C'est qu'importe. Je veux dire, on se sent très bien à la fois avec notre autonomie et notre identité, et en même temps portant le groupe SNCF dans certains cas. Ce qui nous intéresse surtout, effectivement, c'est d'être worldwide, quoi. D'être. On a une équipe d'une centaine de personnes à Pékin. On a une équipe à Hanoï. On en a au Moyen-Orient, à Casablanca. On a beaucoup travaillé en Russie, en Inde. Et cette expérience-là est d'une richesse extrême, c'est-à-dire en confrontant nos méthodes, notre manière d'envisager les espaces publics, les espaces de la mobilité, avec ce que sont les cultures urbaines de ces différents pays, on a du coup une expérience extrêmement riche et qui en retour nous nourrit énormément dans notre travail en France.
Donc il y a un savoir-faire français clairement identifié sur...
Je pense qu'il y a un savoir-faire français lié au fait qu'on est un pays de vieille culture urbaine et qui est lié à une approche très fine de l'adéquation des espaces avec nos modes de vie et la manière dont on a envie de vivre en ville.
Alors c'est quoi les projets de demain de la REP? Il y a une vraie différence avec ce qui se fait déjà aujourd'hui, ce qui s'initie aujourd'hui?
C'est beaucoup de projets urbains. Alors bien sûr, des projets de gare, on en fait, des projets de bâtiments, on en fait beaucoup. On travaille en France sur des gares de la SNCF, sur les gares de la SGP, sur un certain nombre de lieux du transport. Et puis à l'étranger aussi, et sur d'autres grands programmes de tours, de musées, d'espaces commerciaux. Mais surtout, je voudrais insister sur la ville, puisque on voit qu'on est de plus en plus sollicité, en Chine notamment, sur les sujets urbains, ce qui n'était pas du tout le cas d'il y a une dizaine d'années encore, où les Chinois ne rêvaient que de faire des iconic buildings pour transformer leur ville, et où un travail de fond sur l'espace public, sur l'espace
sur
de
la ville, durable,
sur la ville durable, est en train de naître. Et ça nous donne des champs d'intervention et des dialogues et des coopérations extrêmement riches.
Sans faire de la provocation politique, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Chinois se positionnent mieux que d'autres sur tout ce qui est développement durable et protection de la planète.
Oui, ils ont très bien su rebondir sur... les déclarations d'autres grandes puissances.
Voilà. Oui, on ne va pas faire de politique ici. Mais alors, tous ces métiers et toute cette manière de revoir la ville, je dirais, m'incite à te demander de revenir une prochaine fois, parce que là, on est au bout de notre temps de parole. Et comme d'autres invités, nous avons eu l'occasion de faire parfois deux interviews. Et je pense qu'il y a là aussi de quoi faire un second entretien. Donc, je te demanderai... évidemment, je te proposerai en tout cas une invitation prochainement à la rentrée. Merci Étienne.
Très volontiers, merci beaucoup.
Au revoir et merci chers auditeurs. À bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.